Trinville PM. Politique.
J'ai offert aussi carrément à M. Bellemare que si jamais le gouvernement pouvait jouer un rôle pour faciliter, que ce soit des co-entreprises comme on a vu avec Airbus, on est ouvert pour investir. On n'a pas aucun programme précis qui a été discuté. J'ai dit que le ministère économique est prêt à contribuer à solidifier les emplois, solidifier l'entreprise. On n'a pas parlé de format encore, on n'est pas rendu là.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Oui, ben c'est ça, c'est M. Fitzgibbon, là, le ministre de l'économie, hein, le ministre de l'économie, qui, au sortir, donc, enfin, peu de temps après sa rencontre avec Alain Bellemare, a dit, ben, si Bombardier a encore besoin de nous, on est prêt à l'envisager. Paul Journet et Carl Bélanger, je vous retrouve tous les deux. Bonjour.
Salut Bernard.
Bonjour.
Paul, vas-y donc avec tes réactions. D'abord, penses-tu que c'était scripté, ça? Penses-tu qu'ils rentrent dans le scrum avec l'idée d'annoncer que si jamais Bombardier a encore besoin de nous, on sera là?
Ben, c'est un peu étrange dans la mesure où il n'y a pas encore de demande. Donc, d'aller au-devant alors que Bombardier est tant critiqué, que l'aide apportée sous le gouvernement Couillard est tant critiquée, puis dire si jamais il y a une demande, on va y répondre, ou en tout cas, on va l'examiner à sa juste valeur. Mmh. Et si les Québécois ont de la chance de faire un peu d'argent ou de ne pas en perdre en aidant Bombardier, ben, on ira de l'avant. Je ne sais pas si c'était scripté, mais ça me semble un peu prématuré. Mais moi, la chose que je retiens de la rencontre, j'ai parlé à des gens à la CAQ, puis ce qu'ils me disent, c'est on a envoyé un message. On a dit à Bombardier que, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à vous cacher quand il y a des mauvaises nouvelles. Votre façon de... c'était pas leur mot, là, c'est moi qui paraphrase. Sûrement qu'ils ont utilisé des termes plus diplomatiques, mais en gros, ce que ça voulait dire, c'est essayer d'améliorer votre façon de communiquer. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont d'accord avec cette critique.
Ça sera pas dur à améliorer. Ça sera pas
dur
à améliorer.
Mais en même temps, le message qui est envoyé par le ministre, c'est mais oui, ils ont eu l'aide dans le passé, ça n'a pas donné les résultats escomptés, mais s'ils ont encore besoin d'aide, on va être là. Mais non, c'est parce qu'à un moment donné, là, nous autres aussi, il faudrait arrêter.
Oui, en même temps, je vais vous dire, non, ça c'est vrai, ça là. Surtout si on ne s'entend pas pour une meilleure édition de compte, puis on ne s'entend pas pour que, si jamais il y a d'autres sacrifices à l'avenir, il va falloir que la haute direction fasse sa part. Là. J'espère que les règles du jeu d'une future éventuelle aide gouvernementale, nouvelle aide gouvernementale, sera mieux encadrée que ça a été le cas par le passé.
Ouais.
Mais j'allais dire, je sais pas si vous avez vu la lettre de David Chartrand, le représentant des travailleurs, dans le Devoir de matin.
Ouais.
Tu vois que le gars, il commence à être inquiet du fait que, puis il le sent, puis nous autres aussi, on le sent. Moi, quand j'ouvre les lignes, puis je regarde mes textos puis mes courriels, je sens une exaspération de la part des Québécois envers Bombardier. Et dans le fond, Chartrand dit, faites attention, là. Parce que si à un moment donné, on devient tellement tanné de Bombardier qu'on la laisse couler, c'est 15 000 jobs puis toi et famille qui vont couler avec. Là.
Ben, je pense que les Québécois sont partagés. D'une part, ils sont en colère contre la direction de Bombardier. Puis d'autre part, ils sont fiers de cette entreprise. Puis je pense qu'il faut se rappeler que Bombardier, c'est pas seulement ses dirigeants. Une entreprise, c'est peut-être même d'abord et avant tout ses travailleurs, sa main-d'œuvre. Et c'est de tous ces travailleurs-là et de leur réalisation que les Québécois sont fiers. Mais ils ont le goût que d'arrêter d'être découragés par les actions de la direction. Puis tu le vois que ça devient toujours un peu sensible, autant pour le syndicat que pour d'autres observateurs, de critiquer Bombardier parce que, d'une part, il faut faire savoir à la direction la grogne qu'on a, mais on ne veut pas non plus salir le joyau puis attaquer les travailleurs. Au contraire, on veut aider cette entreprise-là.
À passer au travail.
Mais c'est pour ça que Bombardier a le gros bout du bâton parce que tous les gouvernements, que ce soit au provincial ou au fédéral, savent très bien qu'il y a beaucoup d'emplois en jeu et pour eux autres, c'est la priorité numéro un. Donc, c'est pour ça.
Avec raison.
Certainement, sauf qu'en même temps, il faut mettre des conditions. On regarde le fédéral, le ministre Baines est sorti cette semaine puis il a dit les conditions qu'on leur a données qu'on leur a demandées pour le prêt de 300 quelques millions de dollars, ils sont rencontrés parce qu'ils vont quand même créer 1500 emplois. Mais oui, mais tu viens d'en couper 2500 juste au Québec puis 5000 dans le monde. À un moment donné, ça marche pas. Là.
Une drôle de ligne. Changeons de sujet parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps de parler de ça. Là. Ce que Doug Ford a décidé hier, là, la décision qu'il a prise de jeter à poubelle une institution qui visait à protéger les droits des francophones en Ontario, le projet d'une université francophone à poubelle, Je veux dire, il a vraiment sacrifié les francophones de l'Ontario hier, Doug Ford. Franchement, là, je suis absolument stupéfié, consterné, puis en beau maudit, Carl.
Mais t'as raison. T'as raison, puis t'es pas tout seul. Écoute, je pense qu'avant de commencer, là, on va écouter Carole Jolin, qui est le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui a réagi à cette nouvelle-là hier.
État de choc, fâché, déçu pour la francophonie ontarienne. La crainte qu'on avait, c'est qu'on n'aille pas avec le montant qui avait été déterminé pour l'Université de l'Ontario français. Les libéraux avaient parlé d'un projet de 83,5 millions sur 7 ans. On avait un petit peu d'inquiétude à savoir que ce montant-là soit diminué, mais définitivement pas qu'on abandonne le projet.
Oui, c'est ça, là.
T'sais, on s'attendait avec les conservateurs et leur programme qu'on coupe un peu, mais pas qu'on élimine complètement cette avancée majeure pour les franco-ontariens, celle d'un établissement postsecondaire entièrement francophone.
Non, puis tu sais, ils ont coupé hier, c'est quoi? Ils ont coupé, je pense, c'est au-dessus d'un milliard. Ils ont annoncé des coupures de
non,
quoi?
Non, c'est des coupures de 3,2. C'est 3,2 milliards au complet dans l'annonce économique, dont 1,5 milliard en infrastructures, 1 milliard en services sociaux. On n'a pas tous les détails, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils font des mesures comme celle-ci sur l'université francophone, aussi des agents du Parlement. Écoute, non seulement on abolit le projet d'université francophone, là, mais on abolit aussi le commissariat au service en français de l'Ontario.
Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, là, c'est...
Une garde qui surveillait comment ça se passait.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est sur des coupures de milliards de dollars, là, enlever le premier 20 millions qui devait servir à l'université francophone, puis probablement 1 ou 2 millions par année pour le commissariat qui protégeait les droits des francophones, c'est comme 0,0001, je sais pas quoi, là. C'est une petite goutte d'eau dans la... Alors, visiblement, c'est pas un choix financier, c'est un choix idéologique.
C'est un choix politique. C'est de la réelle politique crasse. Parce que, écoute, on se rappelle, là, dans le temps de Mike Harris, les conservateurs de l'Ontario ont essayé de fermer l'hôpital Montfort, qui est l'hôpital francophone de l'Ontario. Ils ont essayé de le fermer. Il y a eu une montée de boucliers, des manifestations. Ils ont été obligés de reculer. Mais depuis ce temps-là, l'électorat francophone de l'Ontario ont mis une croix sur les conservateurs. Puis on l'a vu lors de la dernière campagne, même si les conservateurs ont gagné une grande majorité, les sièges francophones dans le nord, dans l'est ontarien, ben, ils sont pas allés aux conservateurs.
Alors, fait que c'est une forme de revanche. C'est une forme de revanche.
Ils votent pas pour nous autres. Fait qu'on n'a pas besoin d'eux autres. On va se débarrasser de ça. De toute façon, il y a une partie de l'électorat ontarien conservateur, on se le cache pas, qui est anti-francophone. Et là, ben, on va faire plaisir à eux autres. On va se débarrasser de ces affaires-là. On n'a pas besoin. Puis pendant ce temps-là, là, pour expliquer cette décision, cherchez pas Caroline Mulroney, qui est la ministre en charge des affaires francophones en Ontario. Caroline Mulroney, alors qu'on fait une décision comme ça, on ne la trouve nulle part. Pas d'entrevue, pas d'explication. Madame est trop occupée.
Elle se cache.
Cachée. Et je voulais juste que ce soit noté que, même si je parle pas, je suis tout autant en colère que vous, sinon encore plus, mais je veux pas en faire un concours.
Bon. En tout cas, Mélanie Joly a pris la parole. Ça, j'étais bien heureux de voir ça. Elle a dénoncé, elle a dit que c'était inacceptable. Je me suis dit, bon, ben bravo Mélanie. Et là, évidemment, ça met la table pour la rencontre avec François Legault puis Doug Ford lundi prochain. Va dire une chose, Legault se serait passé de ça, je suis certain, parce que, écoute, là, il s'en va là parler d'énergie, puis il va être pris avec la patate chaude puis avec raison,
Tous les médias francophones ici en Ontario, ils parlent juste de ça.
Ben c'est sûr.
Et avec raison.
Puis les journalistes qui vont suivre Legault à Toronto, là, inquiète-toi pas, ils vont y poser, ils vont vouloir savoir.
Les libéraux provinciaux du Québec là, viennent de sortir en disant « mais faut que François Legault sorte là-dessus, pas le choix ».
Mais il a dit hier qu'il trouvait ça déplorable, mais voyons ce qu'il va faire de plus. OK, on va s'arrêter. On va s'arrêter parce qu'au retour, je veux que tu nous parles, mon cher Paul, de cette négociation-là. On parle quand même de centaines de millions de dollars, la négociation sur l'immigration entre le Québec et Ottawa. Et Carl, tu vas nous parler un petit peu de ce scandale-là d'agression sexuelle avec les forces canadiennes dans un instant. De retour, donc, avec Carl et mon ami Paul. Vas-y donc, Paul, avec cette négociation, donc, sur l'immigration entre Québec et Ottawa.
Oui, ben on sait que François Legault veut réduire les seuils d'immigration. En ce moment, on est à peu près à 52, 53 000 personnes qu'on accueille chaque année. La CAQ a dit qu'à court terme, elle voulait faire passer ce nombre à seulement 40 000. Or, l'immigration est contrôlée en partie par le Québec, mais aussi en partie par Ottawa. Et il y a deux possibilités pour la CAQ. La première, le Québec diminue seulement l'immigration qu'il contrôle. La seconde, le Québec diminue en partie l'immigration qu'il contrôle et demande aussi au fédéral de diminuer sa part. Mais ça, c'est loin d'être évident que le gouvernement Trudeau va accepter parce qu'il y a un principe qui veut que chaque province, grosso modo, accueille autant d'immigrants dans des situations là, de détresse humanitaire que son poids démographique. Donc, par exemple, t'es le Québec, t'as près du quart de la population canadienne, ben t'accueilles près du quart de l'immigration, des réfugiés puis des demandeurs d'asile. Fait que ça, c'est la première question, la question du nombre. Et la deuxième, ben du nombre d'immigrants. Et la deuxième, l'argent. Donc, il y a ces deux choses-là qui sont négociées. Là, M. Jolin Barrette, lui, prétend qu'on va être capable de garder autant d'argent, mais je ne sais pas si on va être capable d'avoir le beurre puis l'argent du beurre pour la CAQ puis d'avoir absolument tout ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Moi, le temps joue contre le gouvernement caquiste à qui il reste à peu près un mois pour s'entendre avec le fédéral.
Ah oui, moins que ça même. Ouais. Mais c'est très judicieux ce que tu dis là, parce que c'est vrai que l'entente, elle dit que l'argent peut pas diminuer, l'argent versé par le fédéral peut pas diminuer, mais l'entente dit aussi tu dois avoir X pourcentage de l'ensemble des immigrants accueillis par le Canada. Et là, si la CAQ ne respecte pas cette disposition-là de l'entente sur le pourcentage d'immigrants qu'on doit accueillir, est-ce que ça ouvre la porte pour que le fédéral dise « Bon, ben très bien, nous, on n'est pas obligés non plus à ce moment-là, de respecter l'autre disposition qui dit que l'argent qu'on vous verse ne peut pas diminuer. Si vous en prenez moins que vous êtes supposé, on peut vous donner moins, on peut vous donner moins d'argent qu'on est supposé vous donner. »
Et ça, c'est risqué parce qu'il faut rappeler que, tu sais, Bernard, il y a plein d'ententes pour lesquelles on a l'impression que le Québec n'a pas sa juste part ou des ententes provinciales, fédérales là, qui frustrent le Québec. Mais l'entente sur l'immigration qui date de 1991, je pense, c'est pas une de celles-là. Au contraire, c'est peut-être l'entente la plus avantageuse pour le Québec. Donc, c'est pas celle que tu veux rouvrir parce que si tu la rouvres, c'est pas évident que tu vas avoir les gains. Ah, il pourrait aussi y avoir des reculs. Puis, le meilleur exemple, c'est que année après année, tu as des spécialistes de l'immigration au Québec qui disent ben l'entente, là, l'argent que vous recevez du fédéral, il est pas dépensé entièrement à chaque année. Donc, je veux bien croire qu'il y a des problèmes d'intégration, de francisation, etc. Mais il me semble qu'il y a une petite portion, une portion petite, mais quand même substantielle de l'enveloppe qui est laissée sur la table, qui s'en va ailleurs ou qui s'en va, on ne sait pas trop où. Donc, il n'y a pas un manque d'argent dans cette entente-là pour le Québec.
Ah non, non. Écoute, si tu savais, les autres provinces regardent cette entente-là puis n'en reviennent pas. Là. Ça, cette entente-là, ça a été négocié entre Robert Bourassa et Brian Mulroney, finalisé en 91 après l'échec de Meach. Et c'était une façon pour Mulroney de compenser, entre guillemets, le Québec pour l'échec de Meach. Et c'est une entente extraordinaire, exceptionnelle pour le Québec. Et tu as tout à fait raison de dire que le Québec n'a absolument pas intérêt à rouvrir cette affaire-là. On va aller rejoindre Carl. Carl, tu vas nous parler donc de ce... C'est quoi le vol olé-olé de la Défense nationale? C'est quoi cette affaire-là?
Écoute, c'est un vol qui a eu lieu en décembre 2017. Vous savez, de toute époque, là, il y a toujours eu des gens, des vedettes qui allaient voir nos troupes à l'étranger. Ça se fait régulièrement pour essayer de relever le moral lorsqu'ils sont en déploiement. Donc, il y a eu un vol en décembre 2017. Et peut-être que vous avez vu passer ça il y a quelques mois, là, le joueur de hockey Dave Tiger Williams, qui était sur ce vol-là, il était accusé d'agression sexuelle suite à ce qui s'est passé. C'était le party, là. Les gens
entraient... Attends, agression sexuelle pendant le vol?
Pendant le vol contre un agent de bord, une militaire. Et il est accusé de ça. Il y a eu des comportements... Écoute, le monde était pacté, là. Quand tu dis pacté, il y aurait deux des passagers, des VIP, qui étaient des invités de la Défense, qui se seraient pissés dessus parce qu'ils étaient tellement sous qu'ils n'étaient pas capables de se contrôler.
Ça a tellement mal allé. On n'est pas dans les métaphores, là. On est dans le...
Non. On est dans le réel. Et puis, ça a tellement mal allé. Ça a tellement mal été, en fait, que les quatre agents de bord, les quatre militaires, dont la victime présumée, ont été retournés à la maison sur un vol commercial et on a dû rapatrier ces VIP-là sur un autre avec d'autres personnels parce que
tellement ils voulaient pas revenir avec ce monde-là là.
Mais non. Ça a débordé complètement. Et ça a débordé et là ce qui s'est passé évidemment c'est que du côté de la Défense nationale, on a tenté d'étouffer l'affaire. La semaine dernière, les conservateurs ont pris la balle au bon en comité. Ils ont interrogé le ministre de la Défense qui, disons, qui n'était pas très, très transparent. On peut écouter ce que ça donne.
Since the minister takes the issue of sexual assault so seriously, when was it that he was briefed on the alleged sexual assaults that occurred on the VIP party flight to Latvia?
I don't have the exact date, but one thing I can assure you that...
Give me a time frame. You don't know exactly when. Was it a week, a month, a year?
I don't have the exact date.
Did you approve the statements that went out from DND Public Affairs?
The statement, which statements are you referring to?
OK, il n'a vraiment pas l'air... Ou il ne veut pas parler, ou il n'est pas préparé. Mais dans un cas comme dans l'autre, il a l'air d'un beigne.
Ben oui, puis moi je pense que il était au courant du dossier et on camoufle l'affaire. Puis là, ce que David Pugliesi, j'invite tout le monde à aller voir la série de David Pugliesi dans l'Ottawa Citizen, où il démontre que toutes les déclarations émises par le ministère de la Défense nationale, ça démontre que le gouvernement mentait dans ce dossier-là, cachait de l'information, les demandes d'accès à l'information ont été retardées au-delà des délais prescrits par la loi. Donc on tentait de camoufler ça, et là, c'est en train de péter au visage du ministre de la Défense. C'est un vol qui a coûté quand même 337 000 $ d'argent des contribuables.
Et 5 ans. OK. Ouais, ça fait cher le billet, ça, puis ça fait cher la bouteille aussi. Et puis le nettoyage. En
fait, oui, ça fait cher le pipi aussi.
Je ne sais pas si ça inclut le nettoyage de l'avion par après. Ouais. Ah,
sûrement.
Carl Bélanger, consultant en communication stratège. Merci, Carl. Bonne fin de semaine.
Et salut.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci à toi aussi, Paul.
Merci, Bernard.
Bonne fin de semaine. On se reparle tout de suite après la pause, les auditeurs.